Josiane, bonjour.
Allô.
Josiane Caron, sanitaire, ergothérapeute, propriétaire de cette clinique de thérapie pédiatrique à Boucherville, les Mille Pattes. Mm-hmm. Souvent, le retour à l'école,
oui,
c'est synonyme de devoir, de leçons.
C'est clair.
Et du sac à dos.
Et du sac à dos.
Qui parfois.
Oui, pas le choix.
Ben oui, puis on se dit, oh, les enfants, ça n'a pas de maux de dos. Ben ça peut en développer, on en parlera. Mm-hmm. Mais tout d'abord, Josiane, c'est quoi la meilleure position pour étudier, faire les leçons à la maison?
Mm-hmm, question piège. Hein? Oui. C'est sûr qu'on a l'image stéréotypée de l'enfant assis sur la chaise devant le bureau, bien concentré. Mais la meilleure position, en fait, c'est celle qui va fonctionner pour l'enfant et pour le moment présent, parce que ça peut changer.
Oui.
Donc, en voulez-vous des exemples de différentes positions de travail? Il y a la table et le bureau, bien sûr. On peut s'asseoir aussi, mais par terre. Plus l'enfant est jeune, moins son contrôle postural est développé, plus il va être à l'aise et aimer travailler par terre, peut-être adossé à un mur. On peut se mettre à genoux devant une table à café.
Mm-hmm.
On peut se mettre debout si on a une table assez haute, ou parfois un îlot de comptoir pour les enfants qui travaillent bien là, dans la cuisine. On peut se mettre aussi, je crois que j'en avais une autre... Évidemment, je la retrouverai plus.
On peut avoir aussi, je sais que vous préconisez bien, Josiane, parfois aussi l'apport d'objets, c'est-à-dire des enfants qui vont aimer tâter une balle. Moi, j'ai une petite roche là quand j'anime là qui est devant moi. Donc ça, c'est bienvenu aussi. C'est pas nécessairement toujours dérangeant pour l'enfant.
Les enfants ont un système différent. Je vous rajoute la position plavante sur le sol, c'est celle que j'avais oubliée, je l'ai retrouvée. Les enfants ont des systèmes différents et des enfants qui ont besoin de bouger, de manipuler, d'activer leur système sensoriel pour mieux se concentrer. C'est sûr que ça a tendance parfois à déconcentrer le parent autour.
Ouais,
on dit
«
arrête
hein?
de bouger, là, c'est trop ». Mais pour lui, ça se peut que ça l'aide. Donc, d'avoir sur le bureau un petit bol, par exemple, avec, on les connaît, ces objets-là, les objets qui vont aider l'enfant, qui ne sont pas trop dérangeants. Et ça peut être aussi autre chose, comme des choses qui se sentent, des choses qui se regardent, qui donnent des petites pauses parfois visuelles. Donc, un petit bol d'objets qui peuvent aider la concentration selon ce qu'on connaît de notre enfant.
Évidemment, à l'école, parfois, ce n'est pas toujours bienvenu ce genre. Est-ce qu'on pourrait aider notre enfant même à travers le cadre scolaire avec ce genre de petits outils-là?
C'est sûr qu'il faut toujours en parler avec l'enseignant, mais quand le bénéfice est plus grand que le coût, c'est sûr que les enseignants sont ouverts à permettre certaines choses, et il y a des objets qui sont moins ou qui font pas de bruit, idéalement.
Ouais,
et on peut mettre des petites règles comme tu dois le manipuler, mais sous le bureau. Donc, ça dérange pas les amis autour et tu le vois pas non plus. Donc, tes yeux restent libres pour regarder l'enseignante ou ton travail. Oui, ça peut s'adapter à l'école.
Il y a la posture aussi qui est assez importante. Qu'est-ce qu'on doit privilégier comme posture pendant devoirs et leçons à la maison?
Bien, c'est clair que si on a un enfant qui se développe très, très bien, qui a une bonne posture, on peut aller un peu dans tous les sens. Mais quand on a un enfant qui a peut-être un trouble de développement qui affecte son développement postural, donc il peut avoir un tonus plus bas, des muscles plus faibles ou moins endurants, à ce moment-là, une posture qu'on dirait plus ergonomique va être à privilégier pour enlever une charge d'effort sur le corps. Parce que l'enfant qui doit mettre beaucoup d'efforts physiques pour rester assis, et pour certains enfants, par exemple dans un diagnostic comme la dyspraxie, l'enfant doit penser à activer ses muscles pour rester assis, pour pas tomber. Donc, ça coûte cher en énergie mentale, puis là, il en reste moins pour les travaux et l'écoute. Donc, en ayant un poste de travail qui est ergonomique, donc un mobilier qui est bien ajusté à la taille de l'enfant, les pieds au sol, le dos droit, il y a différents principes qui peuvent s'appliquer. Mais à ce moment-là, on réduit beaucoup, beaucoup le défi sur le plan postural. Ça ne veut pas dire que ça va rester facile, mais plus facile que si on n'avait pas ajusté, puis laisser des ressources à l'enfant.
Cindy, la posture préférée de James Daniel pour étudier?
Bien, c'est sûr, vu qu'il ne voit pas, lui, c'est pas le fun d'être juste assis sans bouger.
Ouais,
c'est assis sur une chaise à bouger, à se mettre...
D'autres stimulations sensorielles sont vraiment...
Il joue avec tout ce qu'il peut, puis...
Oui.
Maintenant, le sac à dos. Hein, je le disais tout à l'heure, on a parfois cette image-là qui est un peu drôle d'un premier coup d'œil là, de ce petit enfant avec un sac à dos plus gros que lui-même. Pourtant, ça ne doit pas être tout à fait adéquat pour le dos. Il faut penser à ça, hein, la grosseur du sac à dos.
Mais c'est sûr que c'est différent de dans mon temps. Maintenant, il y a tellement de beaux sacs à dos et ont tendance à être tous très gros. Alors, les petits, bien, c'est sûr qu'on essaie de les convaincre d'avoir un sac plus ajusté à leur taille. Et aussi, c'est parce que le poids est excessivement important. Plus le sac est gros, plus on va avoir tendance à mettre des choses dedans.
C'est vrai. Hein?
Et dans le fond, saviez-vous que le poids du sac ne devrait pas dépasser 10 % du poids de l'enfant?
Oh, c'est un bon truc, ça.
Et ça, ça monte vite.
Cindy trouve ça drôle.
Parce qu'avec un enfant de 50 livres, c'est 5 livres.
Ouais.
J'ai fait le test avant de partir. J'ai pris un sac à dos de mon garçon avec un chandail dedans et un agenda. C'est tout. J'étais à 4,5 livres. Ça monte vite.
Il y a le poids du sac aussi.
C'est exactement ça. Donc, c'est facile de se ramasser avec un sac à dos trop lourd. Donc, un sac à dos plus petit avec les bretelles et les gants qui vont s'ajuster pour bien coller sur le dos de l'enfant, c'est l'idéal.
Oui. Parfois, justement, on a tendance à peut-être trop le bourrer, ce sac-là. Qu'est-ce qui peut être pas nécessairement... Bon, qui n'est pas nécessaire et qu'est-ce qui est vraiment important à glisser dans le sac à dos?
Bien, tant qu'on arrive à doubler plusieurs choses, tantôt on parlait un petit peu du bureau, c'est pas compliqué de se faire un petit panier plein d'effets scolaires, colle, crayon, tout ce qu'on a à l'école dans le coffre à crayons, on l'a également à la maison. Donc, on n'a pas besoin de le transporter.
Mm-hmm.
Certains manuels scolaires peuvent être doublés. Si on a un enfant avec des besoins particuliers, on peut faire inclure ça au plan d'intervention. C'est du poids de moins. Et c'est souvent des enfants qui peuvent être susceptibles aux oublis également. Donc, on libère ces composantes-là en doublant le matériel.
Rapidement, roulette ou pas?
Roulette, si on est obligé de transporter quelque chose qui est trop lourd, sinon... C'est pas symétrique, c'est pas toujours l'idéal. Un sac à dos au bon poids, collé sur le dos,
c'est préférable. Josiane Caron-Santa, vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique de thérapie pédiatrique Wist à Boucherville. Les mille pattes, on va pouvoir avoir la chance de vous réentendre. Hein. Vous allez revenir comme
ben
chroniqueuse.
Oui. Ben oui.
Continuez à nous parler d'ergothérapie. Merci beaucoup, Josiane.
De rien.